Les guerres contemporaines au diapason du futurisme. Voici ce qu'en 1916, l'Italien Tommaso Marinetti, dans son manifeste futuriste, écrivait. L'homme commence par mépriser le rythme isochrone et cadencé des grands fleuves, identique au rythme du passé propre. L'homme envie le rythme des torrents semblable à celui d'un galop de cheval. L'homme dompte les chevaux, les éléphants, les chameaux pour manifester son autorité divine par le moyen d'un accroissement de la vitesse. Faisant alliance avec les animaux plus dociles, il enchaîne les animaux rebelles et se nourrit des animaux comestibles. L'homme dérobe à l'espace l'électricité et les carburants pour créer de nouveaux alliés, les moteurs. L'homme contraint les métaux vaincus et rendus flexibles grâce au feu à s'allier avec les carburants et l'électricité. Il forme ainsi une armée d'esclaves, hostiles et dangereux, mais suffisamment domestiqués, qui le transportent rapidement sur les courbes de la terre. Il faut persécuter, frustrer, torturer de toutes les façons ceux qui pêchent contre la vitesse. Deux guerres mondiales plus tard, selon une vision, certes bien ethnocentrée de l'histoire, la naïveté à dialectique de Marinetti vis-à-vis du développement effréné des sciences et techniques dont la finalité consiste en la domestication de la nature et du vivant, ne semble avoir rien perdu de sa profondeur. Plus d'un siècle plus tard donc, nous en sommes, en particulier les puissants de ce monde, mais aussi la masse de toutes celles et de tous ceux qui ne rêvent que de les égaler, et c'est peu dire, au point où la folie futuriste d'un Marinetti s'est faite monde. Ce qui distingue cependant l'époque où le fasciste Marinetti rédigea son manifeste de la nôtre, du moins peut-on l'imaginer, c'est l'évidente fausse route d'un progrès indexé justement au développement de sciences et techniques dominé par le désir de domestication des éléments, vivants tout autant que non vivants. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, quelques esprits éclairés, parfois parce qu'ils en avaient fait l'expérience directe, comprirent toute la négativité contenue dans le développement de ces armes de destruction qui avaient ravalé les êtres humains à l'état de chair à canon. Walter Benjamin, dans « Expérience et pauvreté », écrivait qu'au cours de cette guerre, le cours de l'expérience avait chuté, que les hommes ayant vécu l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle en étaient revenus muets. Quant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en août 1945, ils furent peu de Camus et de Anders pour saisir l'ampleur de la menace qui s'ouvrait. La plupart des commentateurs de l'événement, trop fascinés par la puissance de l'énergie libérée pour saisir le sens du massacre perpétré, continuèrent de penser en termes de domestication. Il suffirait de domestiquer l'énergie nucléaire pour en faire une source d'énergie miraculeuse. Aujourd'hui, les dés semblent bien être jetés. La domestication de tout ce qui est par les technosciences à son revers, déjà théorisée au milieu du siècle dernier d'ailleurs, par Horkheimer et Adorno dans leur célèbre texte « La dialectique de la raison ». La rationalité instrumentale, dont Habermas dans « La science et la technique comme idéologie » montrera qu'elle n'est rationnelle qu'en référence à la finalité déterminée, en l'occurrence la généralisation de la recherche de la plus grande productivité en contexte capitaliste, semble être devenue sa propre fin et la technique devenue la nature même, comme Michel Henry l'écrivait à la fin du siècle dernier. La technique est la nature rendue à elle-même, s'exaltant et s'exprimant elle-même, son autodéveloppement, de telle sorte que toutes les virtualités et potentialités incluses en elle doivent être actualisées pour elle et pour ce qu'elles sont, pour l'amour d'elle-même, pour que soit fait tout ce qui doit être fait, c'est-à-dire tout ce que la nature pourra devenir. Il s'agit de fabriquer de l'or, d'aller sur la lune, de construire des missiles capables de s'auto-diriger, de s'auto-surveiller avant de décider eux-mêmes du moment de leur destruction et de la nôtre. La technique, écrit encore Michel Henry, est l'alchimie. Elle est l'auto-accomplissement de la nature en lieu et place de l'auto-accomplissement de la vie que nous sommes. Elle est, écrit-il enfin, la barbarie, la nouvelle barbarie de notre temps, en lieu et place de la culture. En tant qu'elle met hors jeu la vie, ses prescriptions et ses régulations, elle n'est pas seulement la barbarie sous sa forme extrême et la plus inhumaine qu'il ait été donné à l'homme de connaître, elle est la folie. Alors, à l'opposé de ce qu'imaginait Marinetti cette fois, les êtres humains sont devenus les esclaves de leurs propres esclaves et nulle lutte que pour des places d'opérateurs de systèmes, de presse-boutons, dominés par la nécessité que leur imposent les machines de trouver des ressources pour la continuation éperdue de leur développement, comme du développement capitaliste, Les marionnettes engagent leurs armées de consommateurs nés ou à naître, ou potentiels, dans des guerres qui ne sont rationnelles que par rapport aux finalités des appareils techniques de l'appareil monde capitaliste. Quant à ceux qui prêchent contre la vitesse, et plus généralement contre le progrès des techniques, contre toute autre forme de progrès ou d'enrichissement de la vie, on entend bien, dans la bouche des marionnettes en chef, combien il faut les persécuter, les frustrer, les torturer de toutes les façons. Fidèles en cela aux recommandations du maître futuriste, le fasciste Marinetti.